À quoi tu penses?
Plus ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on parle monde médiatique avec un retour sur la manifestation anti-Bolloré qui s'est tenue au début du mois. Avec l'un des adjoints de la ville de Poitiers, nous dresserons un bilan de la végétalisation de la ville en 2024. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Et on accueille tout de suite notre première invitée du jour pour une initiative qui prend place au sein du tribunal judiciaire de Poitiers. Il s'agit du Cyril Lacon, procureur de la République. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la mise en œuvre de la médiation pénale de proximité, donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers. On va en parler ensemble, en quoi ça consiste et quelles affaires ça concerne. Alors peut-être d'abord dresser un peu le contexte dans lequel entre cette initiative. Une hausse d'activité, rallongement des procédures, c'est un peu ça les problématiques qu'il faut relever?
Oui, puis rapprochement de nos citoyens, de la population, dans le cadre de la justice de proximité, une volonté d'être au plus près de nos concitoyens pour leur apporter une réponse pénale immédiate. On se situe là dans le bas du spectre, dans les petites dégradations, dans les violences légères, dans les menaces, dans les harcèlements téléphoniques. On a la possibilité, à partir du moment où la personne victime l'accepte et l'auteur contacté l'accepte également, d'engager un processus de médiation pénale.
Parce que pour ces petites affaires, les délais étaient parfois longs de traitement et les gens après perdent confiance peut-être en la justice?
Les délais sont longs, mais également c'est une charge procédurale importante pour les enquêteurs. Il y a une volonté d'alléger le travail des services d'enquête de manière à leur permettre de se concentrer sur des enquêtes beaucoup plus chronophages. Donc l'idée c'est de rester sur une procédure simplifiée, une audition rapide et tout de suite, à partir du moment comme je vous l'indiquais, les deux parties sont d'accord, on engage ce processus de médiation avec une échéance de 6 mois pour le règlement de ce contentieux.
Alors, en quoi ça consiste exactement cette médiation pénale?
Alors concrètement, une victime se présente au commissariat parce qu'elle est victime d'une dégradation et l'auteur est identifié. Plutôt que de faire une procédure qui va aboutir classiquement avec un renvoi devant le tribunal, la victime transmet bien sûr, dépose plainte auprès du service de police. Le service de police contacte l'auteur, lui propose ce processus de médiation. Si les deux l'acceptent, le dossier est immédiatement transmis au médiateur du procureur qui a été recruté spécifiquement à cet effet, qui va, sous un délai de 6 mois, recevoir les deux parties, faire en sorte qu'ils se rapprochent, et si cela fonctionne, si on aboutit, si on a un accord, à ce moment-là, la procédure sera classée avec une indemnisation de la victime.
Donc tout se joue au niveau même du commissariat directement?
Bien sûr, tout à fait. C'est la première porte d'entrée, c'est une prise en charge, une sorte de circuit court, de circuit rapide qui permet ce traitement rapide des procédures.
Et donc, il y a eu une formation peut-être des policiers pour la mise en œuvre de cette nouvelle procédure?
Oui, les policiers ont un délégué police-population qui travaille déjà sur les toutes petites affaires et qui a été formé en lien avec l'état-major de la direction interdépartementale de la police nationale. Et côté justice, le recrutement d'un médiateur de la République qui travaillera au sein de nos locaux dans le tribunal judiciaire.
Alors, vous avez commencé à citer quelques exemples. Effectivement, quel type d'affaires peuvent être concernées et celles qui ne peuvent pas l'être?
Alors, celles qui ne peuvent pas l'être, ce sont les affaires graves avec des violences importantes, avec la nécessité de mettre en œuvre des procédures classiques. Et il n'y a pas de changement, j'allais dire, sous le soleil, ou plutôt sous les nuages de Poitiers en ce moment. On va continuer le traitement classique. Non, les procédures qui sont éligibles à ce type de médiation, ce sont par exemple les délits de fuite, bien sûr, quand l'auteur est identifié. Donc, un accrochage, la personne s'en va, on l'identifie, on la rattrape, elle est rattrapée par la patrouille, si j'ose dire, et elle accepte de régler ce contentieux de la sorte. Des menaces, des appels téléphoniques malveillants, des toutes petites violences. Ça peut être également dans le sphère de la famille, du non-paiement de pension alimentaire. Ça peut permettre aussi de renouer lien entre les parties, entre la victime et l'auteur, pour les accompagner dans une démarche où ils devront continuer à se parler. Donc autant mettre en place une médiation, une sorte de conciliation.
Mais pas de violence intrafamiliale, par contre, ça, c'est pas du tout concerné.
Ah, c'est totalement proscrit, tout à fait. Les violences intrafamiliales qui occupent une grande partie de notre activité continuent d'avoir un traitement toujours prioritaire et rapide, mais en dehors de la médiation.
Et concernant les peines, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des peines maximales dans le cadre de ces procédures-là?
Alors la peine, elle est surtout tournée vers l'indemnisation de la victime, la réparation du préjudice. La société, par le simple fait qu'on accepte ce principe de médiation, est quelque part réparée. On se situe là vraiment dans le bas du spectre. Ce qui importe à la justice, c'est que la victime qui a subi un préjudice, qui a subi un dommage, puisse celui-ci voir réparé, avec derrière un engagement dans le cadre de la médiation qui lui permet, une fois que la médiation est validée, acceptée, de saisir un commissaire de justice si, par exemple, l'auteur n'exécute pas l'accord financier. Par exemple, prenons l'hypothèse d'une dégradation où il y a un préjudice de 300 euros, il y a un accord sur l'indemnisation de ce préjudice. S'il n'y a pas de paiement spontané, la victime pourra saisir un commissaire de justice sur la base de cette médiation pour demander le paiement forcé de cette somme.
En tout cas, elle est reconnue comme victime et ça, c'est déjà un premier pas pour être ensuite indemnisée. Alors, comment s'est déroulé un petit peu le processus de mise en place? Donc, c'est vraiment un partenariat police-justice.
Oui, alors j'allais dire, on part de loin en matière de médiation, où on était très haut il y a quelques années, et c'était une mesure qui était beaucoup plus pratiquée, et puis qui petit à petit s'est érodée avec le temps. Pour vous donner quelques chiffres, au niveau national, donc pour toute la France, en 2014, il y avait un peu plus de 15 000 médiations qui avaient été mises en œuvre, et en 2023, elles n'étaient plus que 5 600. Donc on voit bien que c'est une procédure qui était plutôt en désuétude. Poitiers, n'échappait pas à la règle, puisqu'on avait eu deux médiations en 2023 et on en a eu trois en 2024. Donc vous voyez qu'on avait aussi un grand gain en termes de chiffres et on vise à peu près une cinquantaine à une soixantaine de médiations sur l'année 2025. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois d'alléger les services d'enquête dans la charge de travail, mais également, comme je vous l'indiquais, d'apporter une réponse rapide et surtout une sorte de consensus dans l'acceptation de ce préjudice. Et on sait que la justice négociée est toujours mieux acceptée par définition.
Vous disiez que ça a baissé effectivement ces médiations en France. Comment on l'explique alors qu'a priori les gens préfèrent justement que ça aille plus vite?
Alors il y a eu des directives en ce sens parce qu'il est vrai que les médiations étaient peut-être traitées un peu rapidement en lien avec notamment le contentieux familial. Et aujourd'hui on sait très bien que les parties sont déséquilibrées entre la victime et l'auteur et surtout quand ils sont amenés à continuer à cohabiter, la médiation, si elle donne l'illusion pendant un temps d'aboutir à un résultat intéressant, dans la durée ça ne tient pas. Donc il est vrai que par le passé, l'essentiel des médiations avait trait à ce type de délinquance. C'est la raison pour laquelle, avec ces nouvelles directives, petit à petit, le chiffre s'était érodé. Mais on part aujourd'hui sur de nouveaux champs infractionnels, comme je vous l'indiquais.
Donc oui, parce qu'il y avait des risques peut-être que les auteurs ne soient pas assez punis, entre guillemets.
C'était oui, c'est ça, le risque.
Et donc, perte de confiance dans la médiation.
Oui, et puis une victime qui serait mal indemnisée, pas indemnisée, qui subirait de nouveau un préjudice par derrière. Donc, quand une victime nécessite une prise en charge et plus exactement une protection par la justice, il faut aller jusqu'à des audiences avec des condamnations et un cadre légal, un cadre judiciaire très fort qui va être posé sur l'auteur. Donc, dans ce cas-là, on y va.
Et pour les personnes qui nous écoutent, comment se déroule concrètement une séance de médiation ?
Alors, la séance de médiation se passe devant le médiateur, c'est-à-dire qu'il va convoquer les deux parties, les recevoir tour à tour et essayer...
Il faut des avocats, non ? Pas forcément d'avocats ?
Elles peuvent prendre un avocat, tout à fait. Il aura indiqué qu'elles peuvent et ça peut même être souhaitable. Elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle pour être accompagnées. Et c'est toujours préférable d'être accompagnées par un avocat, par un homme de l'art qui va pouvoir les suivre tout au long de ce parcours. Le médiateur va réunir donc victime et auteur, essayer de trouver un terrain d'entente et ensuite ça sera validé par le parquet, en l'occurrence par moi-même. Et si ça fonctionne, comme je vous l'indiquer, ensuite l'indemnisation pour intervenir.
Donc là, votre objectif, c'est une cinquantaine de dossiers.
Minimum,
d'accord. Minimum. C'est le minimum que vous vous êtes fixé. Comment vous allez mesurer l'efficacité du dispositif?
On va les compter, tout simplement, dans un an, et on verra si ça fonctionne. Le nouveau médiateur a été formé, il a bénéficié d'une formation dispensée par l'école de la magistrature, et de ce fait, il est tout à fait apte et opérationnel pour prendre en compte ces dossiers. Il y a certaines situations qui ont déjà été identifiées, qui sont en cours de transmission auprès de lui.
Et est-ce qu'il y a aussi une façon de voir sur le long terme si les gens reviennent auprès de la justice?
Oui, on pourra toujours récupérer les éléments de cette médiation qui aurait avorté s'il y a de nouveaux faits et ça servirait, j'allais dire, à décharge du mis en cause, bien évidemment.
Merci beaucoup Cyril Lacombe, donc procureur de la République, d'être venu nous expliquer donc ce nouveau dispositif de médiation pénale de proximité. Et donc ça se passe directement auprès du commissariat si vous voulez en bénéficier. Merci beaucoup.
Merci.
Contrefaçon, ce sont quatre amis d'enfance parisiens et un groupe de musique électronique. Musiciens passionnés, comédiens, ingénieurs 3D, DJ, réalisateurs, ces talents multiples décident de fonder en 2015 le groupe. Donc Contrefaçon, un groupe musique vidéo. Et ils viennent de sortir en ce début d'année un nouvel album, Alma. Voici le titre, We Can Work It Out.
Pretend it's okay.
De professionnel, je dirais.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
Et on accueille maintenant Pierre Nénès, qui est adjoint à la biodiversité, à la végétalisation de la ville et l'éducation à la nature pour la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour dresser le bilan de la végétalisation de l'année 2024. Alors d'abord, peut-être revenir sur quels étaient les objectifs du programme Nature par tous, Nature pour tous que vous avez mis en place à la ville de Poitiers.
C'est un plan, une programmation assez ambitieuse pour la ville de Poitiers sur ce mandat, avec l'ambition de donner, comme le nom l'indique, nature par tous et nature pour tous, un droit à la nature pour les habitants de Poitiers, c'est-à-dire la possibilité d'avoir près de chez eux de la nature sous la forme d'arbres, d'arbustes, de végétaux, et aussi une dimension participative, nature par tous. Donc c'est l'idée que les habitants, les habitantes sont acteurs, actrices de cette végétalisation de la ville et qui leur permet à terme d'obtenir des îlots de fraîcheur et d'adapter en fait la ville aux changements que nous connaissons actuellement.
Alors le plus gros morceau, on va dire, c'est le plan Canopée avec 40 000 arbres plantés. C'est ça l'ambition. Comment ça se met en place ?
Alors oui, 40 000 arbres plantés. En effet, nous avions même annoncé un peu moins au départ et finalement, nous avons dépassé cette ambition. Mais bon, il faut aussi la relativiser dans la mesure où les arbres actuellement plantés n'offrent pas aujourd'hui ce qu'ils nous donneront demain en termes d'ombrage, de fraîcheur, en termes de services aussi de biodiversité, bien sûr. Donc c'est une politique en devenir, mais qui est installée aujourd'hui. Et pardon, votre question.
Oui, donc comment ça se met en place ce plan canopé, où est-ce qu'ils sont plantés, enfin quelle est la mise en œuvre?
C'est un dispositif qui regroupe plusieurs actions, alors à la fois participatives, mais aussi directement à l'initiative de la ville, et qui se décline dans les différents espaces de la ville, que ce soit donc les espaces verts, bien sûr, les parcs, les jardins, mais aussi la voirie. Et dans les rues de Poitiers qui ne permettent pas de planter des arbres, il y a une intervention complémentaire sous la forme du dispositif Fête de votre rue un jardin. Donc pour 2024, nous avons poursuivi l'ambition avec la plantation de plus de 1000 arbres. Et ça a été notamment des chantiers de plantation participative autour du Clos Gautier, donc derrière notamment la résidence Normandie-Niemen et autour du stade de Clos Gautier. Il faut savoir qu'au début du mandat, nous avions demandé au service une étude de tous les terrains disponibles afin de planter des boisements, des arbres, de l'accompagnement de voirie. Et voilà, petit à petit, depuis 2021, on met en œuvre du coup ces plantations sur les terrains identifiés. Et donc aujourd'hui, on arrive notamment sur des propositions qui sont de la plantation de haies en accompagnement d'un stade, par exemple, ou aux abords d'un bassin d'orage. Donc c'était le cas sur les dernières plantations qui ont eu lieu. Et on a aussi eu donc des plantations de végétaux grimpants, notamment sur les façades, par le biais de fêtes de votre rue un jardin.
Vous parliez des projets de plantation participative. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Et quel a été surtout l'accueil des habitantes et des habitants?
L'accueil est très bon et il est intéressant parce qu'il est intergénérationnel. Et ça, on le doit aussi beaucoup au travail des maisons de quartier qui, depuis quelques années, se sont réunies sous la forme d'intermaisons de quartier, c'est-à-dire un groupement de maisons de quartier pour travailler notamment sur des questions d'écologie, de transition. Et dans les propositions qui sont venues, la plantation de boisements, de vergers a été plébiscitée. Et donc, on travaille avec les maisons de quartier pour mettre en œuvre ces plantations. Donc là, c'était le cas des plantations dont je vous ai parlé au Clos Gautier. Le CSC des Trois Cités était bien sûr impliqué, mais aussi d'autres maisons de quartier sur la proposition faite aux jeunes, notamment, de venir planter. Les équipes des directions de la nature et de la biodiversité de Grand Poitiers et aussi de l'aménagement public, donc les jardiniers de la ville de Poitiers, étaient présentes sur place pour donner des conseils techniques, montrer et expliquer, puisque c'est aussi un moment de pédagogie, finalement. Il y a l'aspect symbolique de planter un arbre, mais il y a aussi l'enjeu de comprendre ce qu'on fait et quel est le devenir de cet arbre planté, qu'est-ce qu'il va donner comme bénéfice aux habitants et aux habitantes.
Alors, il y a aussi le programme Fête de votre rue un jardin qui a concerné une poignée de rues en 2024. Là aussi, quels ont été les retours des résidents? Alors peut-être on peut d'abord évacuer le problème de la rue Saint-Hilaire parce que là, tout le monde n'est pas d'accord sur la réalisation.
Oui, c'est l'enjeu de ces végétalisations dans des rues. Comme je le disais, elles sont complémentaires des endroits où l'on plante des arbres. Dans les rues de Poitiers assez étroites et parfois même qui ont un visage de rue médiévale, elles n'ont pas changé depuis bien longtemps, on ne peut pas planter des arbres. Donc, cette végétalisation des façades, elle est complémentaire. Mais elle pose aussi parfois, et c'est le cas de Saint-Hilaire que vous citez, des problématiques. Et on les a identifiées lorsque elles viennent donner l'impression qu'elles sont une solution, donc ces mesures de végétalisation, comme si elles étaient une solution à des aménagements de voirie. À Saint-Hilaire, ce qui s'est passé concrètement, c'est que des habitants nous ont demandé de trouver des solutions pour diminuer la vitesse des voitures et apaiser la rue, faire baisser le risque face aux voitures. Parmi d'autres propositions, il y avait donc, bien sûr, de la signalétique, Mais pas de budget pour refaire la rue pour l'instant. Donc mettre la zone en zone de rencontre à 20, ça c'était l'enjeu que mon collègue Jean-Louis Fourcault a posé d'emblée. Et ensuite, on a proposé aussi de la végétalisation. Malheureusement, ça a été perçu comme, si vous voulez, la solution pour apaiser la rue, alors que ça fait partie d'un ensemble de choses. Donc on est bien vigilant par la suite à conserver l'accessibilité dans ces rues-là. Et il faut que la végétalisation, elle vienne embellir et améliorer l'existant, mais qu'elle ne donne pas l'impression qu'elle empêche les habitants d'évoluer dans leur rue.
J'imagine que l'accueil a été beaucoup plus favorable, Grand Rue par exemple.
Oui, ou rue de la Cathédrale, ou ailleurs. Alors voilà, Saint-Hilaire, ça a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu une forte mobilisation de certains riverains. Mais on a la même typologie, par exemple, rue de la Croix-Rouge, où on est en lien avec les habitants et on n'a pas ce retour-là. Pour moi, c'est vraiment important ces enjeux de végétalisation dans les rues parce qu'on a un effet spectaculaire au bout de quelques années et on voit que... On intervient pas seulement sur la question de la biodiversité et de la végétalisation, mais aussi sur le bien vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des solidarités qui se créent autour de ces végétalisations. Il y a des à l'échelle d'un quartier ou d'une rue, des choses qui se créent par ce biais-là.
Et alors l'opération Une naissance, un arbre, est-ce qu'elle a trouvé son public ?
Oui, on a planté plus de 300 arbres depuis le début de ce dispositif sur l'espace public. Et puis, pour les habitants, les jeunes parents qui ne peuvent pas planter, en fait chez eux, du coup, on offre un arbre sur l'espace public avec du coup deux options, soit dans votre jardin, soit sur les espaces de la ville de Poitiers, avec le nom inscrit sur l'arbre de l'enfant. C'est un programme qui est très plaisant parce que lorsqu'on remet les arbres à l'îlot Tison en hiver aux jeunes parents, on voit défiler tous les enfants nés récemment à Poitiers. C'est un moment très sympathique.
Et alors, quels sont les projets prévus pour 2025, donc dernière année de mandat voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Encore beaucoup de choses, bien sûr, mais on poursuit notamment sur la végétalisation des cours d'école. Ça, c'était un fort enjeu pour la ville de Poitiers d'adapter les cours d'école. Et il y aura donc sur le mandat une dizaine de cours d'école qui ont été complètement réaménagés, plus des chantiers complémentaires, que ce soit de la plantation de plantes grimpantes, comme ça va être le cas à Brel, par exemple, en 2025, ou alors des réaménagements un peu plus légers. Ça a été le cas notamment, pas très loin d'ici, à Saint-Exupéry, avec de l'engazonnement, de la plantation d'arbres. Et donc ça forme un complexe de solutions pour améliorer les cours d'école. Et on a aussi un gros travail sur les massifs de la ville, puisque beaucoup de ces massifs, donc, qui sont soit sur les rocades ou sur la voirie, aux abords de la voirie, les ronds-points notamment, étaient plantés en vivaces, mais n'avaient pas été renouvelés depuis bien 10 ans pour la plupart. Donc en 2024, la Porte de Paris, notamment les Hombloum, ont été refaits avec une palette qui a vocation à être harmonisée sur l'ensemble de la ville. Et on va poursuivre cet effort en 2025 avec d'autres massifs qui vont être renouvelés pour donner à la ville une sorte d'unité dans sa végétalisation.
Merci beaucoup Pierre Nénès, donc adjoint à la biodiversité, à la végétalisation de la ville et à l'éducation à la nature pour donc Poitiers d'être venu nous parler de ce bilan de la végétalisation 2024.
Merci à vous.
On continue avec ce reportage sur la manifestation anti-Bolloré qui s'est tenue au début du mois et auquel se sont rendus Rachel et Yves.
Ce samedi 1er février, les manifestants se sont rassemblés à Chasseneuil-du-Poitou pour une marche contre l'emprise de Vincent Bolloré, homme d'affaires et milliardaire breton. L'ambiance était festive, musique et costumes étaient de rigueur pour ce rassemblement.
Nous avons alors demandé aux gens leur motivation à manifester et l'importance pour eux d'être présents ici.
Ici, on est à Poitiers, à Chasseneuil-en-Poitou, à côté du Futuroscope, au milieu d'une zone d'activité. Donc là, actuellement, il y a une opération tractage et sensibilisation des gens qui passent par là. On ne bloque pas, mais on informe. Et à quelques centaines de mètres d'ici, il y a en effet des cuves d'hydrocarbures. On est sur un site Céveso, donc c'est des installations classées, des installations dangereuses, avec des risques d'explosion, etc. Et qui sont là à quelques encablures d'endroits où les gens vivent, tout simplement. À travers Bolloré Énergie, c'est aussi l'occasion de montrer que Bolloré, il y a C8, il y a CNews, mais c'est un empire industriel. Et puis Bolloré, faut pas l'oublier, c'est le néocolonialisme complètement assumé, en vrai. C'est la mainmise sur un monde de la logistique à travers le monde. C'est le pillage des ressources naturelles un peu partout, en Afrique notamment. Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle de citoyen là aujourd'hui? Moi, j'ai considéré que le point de rassemblement le plus proche dans le cadre de cette action nationale, qui dure pendant quasi une semaine, hein, c'est du 29 au 3, si mes
c'est
souvenirs
ça,
sont
exactement.
Bons. Et c'est l'action qui se passe dans la région de Poitiers, où on sait que par ailleurs, il y a une culture militante, il y a des luttes qui ont structuré et qui font qu'on se rassemble là.
On veut dénoncer l'accaparement des médias par un milliardaire d'extrême droite et donc le fait qu'il en profite, il profite de son empire médiatique pour diffuser toutes ses idéologies et avec le moins de contradictions possible. Donc aujourd'hui, on trouve ça important de montrer que on n'est pas d'accord avec ça et que au contraire, nous on aimerait bien passer des messages antiracistes, pro-LGBT, enfin. Puis surtout, ce qui est important de se dire, c'est qu'on ne va pas attendre les prochaines élections pour se mobiliser contre l'extrême droite et contre la propagation de leurs idées, et que c'est maintenant qu'il faut agir. On voit bien qu'après, c'est trop tard, là, avec l'élection de Donald Trump, et qui a été propulsée notamment par Elon Musk, qui est un peu la même figure, outre-Atlantique, et bien il ne faut pas agir au moment où l'extrême droite est au pouvoir.
Et qu'est-ce que ça vous fait, le fait qu'il y ait eu l'arrêté d'interdiction par la préfecture de la Vienne ?
Alors, l'arrêté, il y a beaucoup de médias qui l'ont relayé comme un arrêt, une interdiction de la manifestation, mais c'est pas de la manifestation, c'est on n'a pas le droit d'aller sur une certaine zone, un certain circuit, que de toute façon, la manifestation ne comptait pas emprunter. Donc, pour nous, la manifestation, elle est autorisée et on est complètement légitime d'être là. Et de toute façon, comme on ne comptait pas déborder, il n'y a aucun souci avec ça.
La manifestation, pour moi, elle n'est pas juste contre Bolloré Energy, elle est contre le groupe Bolloré dans sa globalité et contre ce que Bolloré représente et essaye d'instituer dans la société française. Elle est en réaction à la fascisation de la société et à comment lui participe à ça et essaye d'influer au maximum de son poids financier là-dessus. Et un samedi après-midi sur une zone commerciale où il y a beaucoup de passages pour pouvoir sensibiliser et échanger avec les gens.
Et toi, qu'est-ce que tu fais là du coup ?
J'ai pas grandi avec la télévision. Et quand j'ai eu la télévision, c'était le moment où Bolloré commençait à étendre son empire médiatique. Donc j'ai découvert le rachat de... C'était iTélé, qui est devenu CNews du coup. Et j'allumais jamais la télé, je trouvais ça déjà assez con quand c'était iTélé, BFM et tout. Mais quand j'ai découvert CNews, ça a été une sacrée dinguerie. Et ma première vraie questionnement sur à quel point... on ne peut rien faire au niveau politique face à Bolloré, ça a été la commission d'enquête parlementaire, que j'ai regardée entièrement, sur les deux heures où on parlait avec Bolloré, et vraiment, enfin où les gens, différents parlementaires parlaient avec Bolloré, et les questions de la droite et de l'extrême droite étaient particulièrement terrifiantes, du genre, en 2016, vous avez diffusé le match, PSG-Rennes, c'était super, est-ce que vous continuez avec Canal+, à diffuser tel ou tel match, alors qu'en fait... les vraies questions qu'il fallait poser, c'est par exemple, vous avez dit dans une émission que l'avortement était la première cause de mortalité en France. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi votre propos, le propos des gens que vous soutenez envers et contre tous, malgré les censures répétées de l'Arcom?
Les gens se rassemblent aujourd'hui pour faire de la communication autour de l'empire médiatique de Bolloré, etc. Mais la finalité, elle sera sur le long terme. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça?
Comme les gens s'informent principalement avec la télévision, et la radio, qui vont écouter les chaînes qu'ils connaissent, genre Europe 1, Canal+, C8, CNews, etc. Je pense que c'est important qu'ils puissent croiser des gens par hasard dans la rue, découvrir un prospectus et faire « Tiens, je savais pas qu'en fait, il y a un gars qui possède 30, 40, 50% de l'empire médiatique et qu'en fait, je sais pas, j'ai pas lu les prospectus, mais peut-être que sur le prospectus, ils disent que l'alternative aux médias de Bolloré, ce seront... les médias de Bernard Arnault, les médias de Xavier Niel, les médias de Patrick Drahi, les médias de Saadé, et tu te rends compte qu'en fait, c'est quoi l'alternative, quoi? À part peut-être Radio Nova, mais ça reste un milliardaire, il peut changer d'avis, on n'en sait rien. Et le domaine public, que l'extrême droite veut de toute façon privatiser. Et ça a été le plan de Bardella, Rachida Dati, elle en a parlé d'ailleurs, etc.
Du coup, en gros, c'est repolitiser l'espace public, c'est ça, hein ?
Exactement. L'objectif, c'est de proposer à des gens qui n'auraient pas eu l'opportunité de savoir que, en fait, ils écoutent la même voix tout le temps et qu'il serait temps de contester cette hégémonie culturelle.
La manif qui commençait à 14h30 au rond-point des Portes du Futur a avant tout démarré dans le but de sensibiliser les automobilistes sur le milliardaire à l'aide de flyers distribués à des endroits stratégiques de la circulation.
La manifestation s'est déroulée sans accroc après une haie de déshonneur, un jeté de goudron et de plumes sur une mascotte géante à l'effigie de Vincent Bolloré. La mascotte a fini brûlée devant les forces de l'ordre.
Merci Yves et Rachel. Et puis comme alternative médiatique, il y a bien sûr vos radios associatives et tous les médias indépendants. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. L'IA au quotidien, c'est ce que propose l'espace Mendes France à 14h30. Découvrir comment l'intelligence artificielle peut simplifier et améliorer la vie quotidienne. Assistants vocaux, création de routines personnalisées, autres applications pratiques. C'est pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans. Et le tarif est de 15 euros. Les visites en duo, c'est à 18h30 au TAP Théâtre Auditorium de Poitiers. Une architecture contemporaine au service du spectacle vivant. Vous pourrez parcourir les salles et les coulisses du TAP avant les spectacles. Une manière originale de découvrir le théâtre à travers son activité et l'histoire du lieu depuis l'époque gallo-romaine. Et c'est dans le cadre du festival Folk Song. Sur Pulsar, 18h, c'est à l'assaut, 19h, Slam à tout va et 20h, Pétale de Sakura. On se laisse, à demain.
Oh, regardez! Pulsar.